Ah oui, c'est un comique qui a écrit ça. Il s'appelle Roland McDan. Il était à Enghien, au casino d'Enghien, le 31 décembre. Et dans le studio, il y a un homme que j'apprécie depuis des années, qui a répondu oui à l'invitation, qui s'appelle Jean-Luc Maxence. Jean-Luc, à qui je vais donner la parole immédiatement. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Jean-Claude Carton.
Comment allez-vous, mon cher ami ?
Je vais bien et je suis très heureux d'être en face de vous et de vous écouter.
On va se tutoyer ?
Oui, on peut se tutoyer.
Même si on n'est pas dans la même loge ?
Mais on peut tout à fait se tutoyer.
Tu as accepté de traiter de différents sujets ce soir, des prophéties de Malachi, ou Malachi, c'est
oui,
selon.
Oui.
De la prophétie de Jean de Jérusalem.
Oui, que je connais moins, oui.
Et puis de la franc-maçonnerie.
En général, oui, que je connais davantage.
Tu en fais partie ou pas ?
Oui.
Oui ?
Oui, oui, tout à fait.
Tu es tenu à un devoir de réserve, Jean-Luc ?
Non, pas du tout. Pas du tout en ce qui me concerne. Le devoir de réserve ne vaut que pour les voisins, que pour les autres. Je ne peux pas parler des autres au nom des autres, mais je peux parler de moi au nom de moi.
Tu connaissais ce texte, ce sketch de Roland McDan ?
Oui, je l'aime beaucoup.
Ouais.
Je l'aime beaucoup. Surtout sur le gouvernement des cons et surtout sur les rois des fous. Il y a beaucoup de rois des fous. Le pape est peut-être un roi des fous.
Tu vas être encore taxé d'intégrisme ?
Non, au contraire, au contraire. Je vais être taxé d'avoir abandonné les intégristes. C'est encore pire.
Un site qui parle de toi en mal, Jean-Luc.
En termes même très, très négatifs, tout à fait. C'est un site intégriste. Donc c'est le contraire. Et c'est un site intégriste qui m'accuse d'avoir abandonné les intégristes pour des idées plus ouvertes. En fait, c'est tout simplement une chronique de poésie que je tenais depuis plus de 30 ans dans une revue religieuse très catholique. Et dans cette revue, il y avait donc une chronique de poésie où je pouvais être libre et m'exprimer comme je voulais, parler aussi bien de Louis Aragon que de Patrice de la Tour du Pin, ou si tu veux, du chant grégorien comme le dernier chant pour liturgique d'après Vatican II. Et puis lorsqu'ils ont appris, il y a toujours quelques personnes un peu indiscrètes, lorsqu'ils ont appris que j'étais du côté de la franc-maçonnerie, ils m'ont fait comprendre que c'était incompatible. Donc je suis parti immédiatement, avant même qu'ils fassent autrement. Et je leur ai simplement rappelé que j'avais écrit en 1977 un livre qui s'appelle « Vive le schisme », qui réclamait en gros la sortie des intégristes de l'Église, et que j'avais soutenu un livre beaucoup plus récent, autour des années 2005, qui disait en gros que l'on pouvait essayer de s'écouter tous et d'essayer de, non pas de mettre tout le monde d'accord, mais de tolérer tout le monde, jusqu'à un certain point. Et ça, ils ne l'ont pas supporté. Moi non plus, c'est pour ça que je suis très heureux d'être parti et d'avoir abandonné cette chronique de poésie, d'autant qu'on m'en a offert d'autres immédiatement après.
Voilà. J'ai remarqué que dès l'instant où on prononce le mot intolérance ou le mot tolérance appelle le mot intolérance et le mot intolérance appelle le mot tolérance.
Absolument, on est toujours l'extrême de quelqu'un d'autre. Et alors quand on essaye non pas d'être bêtement au milieu, parce que le milieu c'est celui qui se mouille pas et qui est prudent, mais lorsqu'on essaye de faire la part des choses, sans employer de grands termes, quand on essaye d'être un peu pertinent, un peu sage, on est considéré comme ayant blessé la droite et blessé la gauche, blessé le cœur à gauche et blessé le cœur à droite. C'est très difficile comme position, mais je crois que c'est la seule position qui donne une certaine indépendance et une certaine liberté quand on a la chance de pouvoir écrire, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir des lecteurs, des auditeurs comme toi, etc. Je crois qu'il faut avoir ce courage de ne pas vouloir être à tout prix étiqueté dans un camp ou dans un autre.
Tu remarquais comme lorsqu'un producteur ou un animateur de radio ou de télévision aborde la franc-maçonnerie, oh il en est, s'il aborde la scientologie, oh il en est, s'il aborde le Front National, oh il en est, ça vient d'où cette pensée?
C'est malheureusement une pensée d'intolérance. C'est la pensée que tout le monde doit absolument se classer dans une secte, dans une caste, dans un endroit bien précis, et que personne ne peut tenter, ou peu de monde peut tenter librement d'avoir une idée un petit peu panoramique, et une idée de choix, de discernement entre ces différents courants. Il est évident qu'il y a des choses très dangereuses dans les sectes, puis il est évident aussi que dans certaines d'entre elles, ou dans certains d'entre dans les religions, c'est la même chose, il y a des choses qui font avancer l'humanité vers l'amour, vers la fraternité, et puis il y a des choses qui les font reculer. Mais c'est pas parce que je suis catholique intégriste que je suis parfaitement en accord avec l'évangile et de l'amour universel. C'est pas parce que je suis catholique progressiste cherchant à tout prix de jouer de la guitare à Notre-Dame de Paris que je suis davantage quelqu'un qui comprend la compassion. Ce n'est pas ça un être humain. Un être humain, c'est pas quelqu'un qui cherche à tout prix d'être casé dans un tiroir. C'est plutôt quelqu'un qui prend le risque de visiter les tiroirs et d'essayer d'en tirer ce qui fait vraiment avancer les choses dans le sens de la paix et non dans le sens de la guerre et des rois des fous, comme disait Roland Magdan tout à l'heure.
Tu te situes dans la catégorie des humanistes ?
Oui, des humanistes un peu libertaires. Mais libertaires pas pour faire exploser les choses, mais libertaires pour garder une certaine liberté d'appréciation, d'opinion et d'action. Ce qui ne veut pas dire nécessairement une liberté contre. C'est d'accord. Pour ça que je suis d'accord pour être humaniste.
En 2011, cette liberté d'expression qui nous est chère à toi, à moi et à des milliers de personnes, est-ce qu'elle est en danger ?
De toute façon, elle est perpétuellement en danger où que ce soit. Bon, parce que si on pense qu'aucun danger ne se présente, on ne voit plus rien. On reste gentil dans son coin, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est heureux. En fait, ça se passe pas du tout comme ça dans le monde entier. On a une lutte entre des gens qui dirigent de manière très 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 directrice, très fasciste, ce serait presque les dictateurs. On a tous ceux qui cherchent une certaine démocratie, un mot un peu galvaudé, le peuple par le peuple. Et puis on a l'intermédiaire avec l'oligarchie. L'oligarchie, c'est une petite élite qui discute entre eux puis qui dirige. Bon, il y a eu un bouquin récemment, j'ai écouté hier une émission là-dessus, un bouquin de Roger Kampf, qui est un philosophe très intéressant, qui justement expliquait que tous les pays, par exemple les pays plutôt en Occident, oscillent entre cette démocratie, cette oligarchie et quelquefois malheureusement ce régime autoritaire ou dictatorial ou fasciste. Voilà. Et tout ça, c'est comme une sorte d'aiguille sur une température et une aiguille qui bouge. Et le mieux, c'est d'essayer de la faire avancer vers davantage de démocratie, davantage d'amour, davantage d'humanisme, et non l'inverse. Alors, me dire où on est maintenant en France, c'est une question délicate, Jean-Claude, très délicate, surtout pour un début d'émission. Disons qu'on est...
Autant situer le décor immédiatement.
On est en état de pouvoir critiquer. C'est déjà quelque chose, mais ça ne nous interdit pas de critiquer. Si, sous prétexte qu'on peut dire, par exemple, qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement en place, ça ne nous permet pas de ne pas le dire. Et voilà où on en est. On peut parler, parlons. Ne nous interdisons pas de parler. Si on s'interdit de parler, là on glisse vers un régime qui n'est plus une démocratie.
Je pense que de plus en plus, c'est une question, hein. Les gens, comme nous les appelons, s'autocensurent.
Ils ont peur, oui.
Oui, peur
ils
de
s'autocensurent,
quoi?
Ils ont peur d'être jugés. Si je dis qu'il y a peut-être des choses très intéressantes dans les liturgies latines, je prends un très gros machin... je vais être taxé d'intégriste, comme tu l'as fait dans l'humour, parce que tu me connais au début. Si je dis qu'il faut changer tout ça, mettre dans Notre-Dame de Paris uniquement des grands voilages blancs et que tout soit pur et qu'on ne voit plus les vitraux, je serai taxé de progressiste dangereux et d'anarchiste voulant renverser Benoît XVI. Voilà, il faut pouvoir dire avec d'une manière pointue, des choses sensées qui font avancer les choses vers davantage de clarté, mais de clarté véritable et pas de clarté comme une déclaration d'intention ou une déclaration d'un homme politique.
Il y a quelques mois, tu as sorti un nouveau livre.
Oui, j'ai sorti un nouveau livre. Alors là, comme clarté, c'est paradoxal. Ça s'appelle « Le désert, état d'âme ». Alors là, c'est tout le contraire. c'est que nous inspire un paysage qui ressemble un peu à la naissance du monde. Hein, quand on se balade dans un désert, là, il n'y a plus de temples, il n'y a plus de scientologues, il n'y a plus de francs-maçons, il n'y a plus d'intégristes, il n'y a plus de progressistes, il n'y a plus de gentils animateurs, il y a des dunes, il y a du sable, il y a des interrogations métaphysiques. Métaphysique, c'est un mot compliqué, ça veut dire quel est le sens du monde. Et là, il se passe quelque chose. Quelque chose qui est, on peut appeler ça un archétype, quelque chose qui est grave, et on s'interroge sur le monde, sur le sens du monde. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, qui s'appelle « Le désert état d'âme », et qui, au fond, a un rapport avec même les prophéties de Malachie. Parce que les prophéties de Malachie, c'est quoi ? C'est d'essayer de voir où va le monde, comment il va. Est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il va mal, et où il va ? Quand on se balade dans un désert, que ce soit le Sahara, le désert d'Atacama, où tu veux, on est obligé de se poser la question, qui sommes-nous ? Est-ce que je ne vais pas mourir à la prochaine dune, puisque j'ai peut-être pas assez d'eau ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et dans ce livre, j'ai essayé de revoir ce que tous les grands écrivains, les grands penseurs ont dit du désert. Alors ça peut aller de Saint-Exupéry, le Petit Prince, en passant par Camus, en passant par Vieux-Sange, en passant par Ernest Psychary, etc. Quelquefois des écrivains qu'on lit plus beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont dit du désert ? Y compris les explorateurs, y compris les poètes, les voyageurs-poètes, ou les poètes-voyageurs, ou les écrivains-voyageurs. Qu'est-ce qu'ils ont dit du désert ? Et on s'aperçoit qu'ils ont dit des choses archaïques, des choses du fond même de la nature humaine.
Tu as une expérience personnelle du désert ?
Oui, Jean-Luc. Oui. J'ai beaucoup visité le désert, j'ai beaucoup de chance. Mais je ne suis pas un Bernus, ou je ne suis pas un Charles de Foucault, tu le sais bien. Je suis quelqu'un d'urbain, j'aime bien vivre dans la ville, etc. Mais j'aime aussi tout d'un coup passer complètement, oublier les gratte-ciels, oublier tout ce qui est le phare, F-A-R-D, de la vie courante, et puis arriver dans... être confronté qu'à soi-même. Au désert, on est devant soi-même.
Ce que j'allais...
C'est le miroir absolu.
L'homme se retrouve nu avec lui-même.
Absolument. On est obligé de se poser des questions. Qui on est par rapport à un chameau ? Qui on est par rapport à un beau visage ? Qui on est par rapport à l'envers d'une mer ? L'envers d'une mer, c'est le sable. L'envers de la mer, c'est le sable.
J'ai découvert ce livre il y a quelques heures.
Oui.
Lorsque nous nous sommes retrouvés à Paris... dans un quartier, dans un arrondissement où il y a des tours.
Oui, il n'y a vraiment pas de désert.
Dans le 13e arrondissement, un peu ermite de la ville.
Oui, oui, on peut créer son propre désert dans une ville. Mais pour ça, il faut arriver à trouver un endroit où il y a un vrai silence, et où on peut se recueillir, méditer, etc. S'interroger sur nous-mêmes et sur les autres. Sur les autres et sur nous-mêmes. Parce que quand on s'interroge sur nous, on s'interroge sur les autres. Et si on ne veut pas s'interroger sur nous, on ne peut pas comprendre les autres, et vice-versa.
Tu es venu spécialement de Bretagne.
Oui,
tu habites Paris,
oui.
Dans le 13e arrondissement.
Oui, tout à fait.
Et tu es parti quelques jours te reposer en Bretagne.
Absolument, dans une abbaye.
Avec ton épouse, dans
oui,
une près abbaye.
Près d'une abbaye, ouais. Saint-Jacques, oui. Hein? Ben justement, je trouve que c'est bien. Je me trouve plus à l'aise ce soir pour parler, parce que j'ai à la fois l'image du désert et l'image de la ville. Je conseille aux gens qui veulent essayer de comprendre ce que peut être le mot mystique, par exemple, par rapport à la maçonnerie, par rapport à l'église universelle, par rapport aux religions, je conseille d'aller dans un désert et d'aller à New York. Les deux. Et là, ils vont se poser des questions.
Alors cette émission, cette nuit, se fait en partenariat avec un forum dont j'apprécie les membres, je pense à Carteris,
oui.
Je pense à House, tu ne les connais pas, je pense à Hieronymus, à John Lloyd, qui va intervenir dans quelques minutes, un site qui a un titre un peu provocateur, qui a pour nom Conspiration et Dossiers Secrets. Tu as eu le temps de parcourir un peu leur forum
Oui, un tout petit peu. Tu veux savoir quoi ? Ce que j'en pense que...
Oui, parce que Hieronymus est en attente, il va intervenir dans quelques instants.
D'accord.
Et comme ils sont tous à l'écoute, et que cette émission de ce soir a été vraiment, grâce à eux, énormément annoncée sur beaucoup de sites, sur beaucoup de forums, je pense que tu as eu un peu le temps de consulter les dossiers qu'ils abordent,
oui.
Et qu'ils traitent, selon moi, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de...
Tant mieux. Comme je disais au début de l'émission, sur un autre sujet, ça n'avait rien à voir avec ce dont ils vont parler, il faut être précis. quand on veut tirer le meilleur de quelque chose et mettre le point, le doigt sur ce qui paraît mauvais, sur ce qui peut être de l'ordre de la conspiration, conspiration pour le négatif, pas pour le positif, il faut être très précis. Il faut essayer d'être précis, honnête, précis au niveau historique, au niveau des dates, au niveau des courants, au niveau de l'état d'une situation. Je pense à la franc-maçonnerie. On ne peut pas dire que tout va bien, on ne peut pas dire que ça n'existe plus, on ne peut pas dire que ça ne passionne plus les gens. Il suffit qu'on parle de franc-maçonnerie dans n'importe quel canard, j'allais dire, immédiatement le tirage augmente, même si on écrit des énormes bêtises. Il faut se poser la question pourquoi. Enfin, il faut essayer d'être là aussi. Et le mot conspiration me fait toujours un peu peur, parce que on crée des conspirations. Alors moi, il me plaît dans la mesure où il peut permettre de lever de mauvais plans, pour parler moderne. De mauvais plans qu'on nous fait pour nous faire croire des choses qui ne sont pas.
Alors, y a-t-il conspiration ou pas ?
Ben voilà, c'est la question essentielle.
Y a-t-il des dossiers secrets ou pas ?
Il y a toujours des dossiers secrets, il y a toujours des conspirations. Mais alors là, c'est le psychanalyste qui va surgir. Le terrible, c'est que souvent, pas toujours, souvent les conspirations sont inconscientes. Alors ça, je m'en expliquerai s'il y a à m'en expliquer. On ne fait pas toujours exprès d'être un conspirateur par rapport à l'autre. Mais là aussi, ça demande à être développé, on dirait.
C'est le psychanalyste qui vient de parler.
Oui. Ça me sert d'avoir plusieurs casquettes. De temps en temps, le mot conspiration est un mot assez juste avec la franc-maçonnerie, on en parlera. C'est assez juste qu'il y a eu des conspirateurs, il y a même des malintelligents, il y a même des salauds, comme partout. Il y en a des imposteurs, des menteurs, des flibustiers, on va dire comme ça, des pirates. Mais dès que vous mettez quelque part conspiration, vous vous sentez mal. On se sent mal, on se sent un petit peu paranoïaque, comme on dit. On se dit, oh là là...
C'est très bon pour l'audimat.
Pour l'audimat, c'est bon. Pour un animateur, c'est pas mal. Au bout d'une heure, on se dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Il veut quoi ? Il veut me faire tomber ? Il veut me faire dire des choses que je ne dis pas ? Je crois qu'il faut rester très... Le plus lucide possible, c'est là où j'aime ces dossiers. Un dossier, ça veut dire qu'on étudie. Ça veut dire qu'on parle pas de tout pour ne rien dire ou pour faire de l'effet. Vive la conspiration, mais si on l'étudie, qu'est-ce que c'est qu'une conspiration ? Et la conspiration contre quoi ? Et là, je rejoins ce que tu as passé, hein, c'est toi qui l'as choisi, c'est-à-dire le comique qui n'est pas si comique que ça, et il ne faut pas que ce soit la conspiration des cons, il faut se méfier.
Il me semble que Hieronymus est en ligne. Hieronymus, vous êtes là ?
Oui, oui, j'écoute.
Merci d'avoir patienté.
Il n'y a pas de mal.
Donc vous êtes un peu à l'origine de cette émission avec Carteris, et de ce partenariat qu'il va y avoir entre nous.
Oui, si je peux en dire quelques mots, nous nous sommes parlé pour la première fois à la fin du mois d'octobre lors d'une émission justement qui avait pour sujet un article que j'avais écrit et qui est donc paru depuis publié sur ce site qui s'intitule Conspiration et dossiers secrets, enfin auquel j'invite les auditeurs de la radio à se reporter. Enfin, il suffit de taper sur Google Conspiration et dossiers secrets et ça sort tout de suite. Oui. Donc en fait, à la suite de cette émission. Peut-être d'abord je dois saluer les animateurs de la radio. Enfin, bonsoir à Jean-Luc Maxence et à John Lott qui doivent écouter en ce moment. Bonsoir également aux auditeurs de la radio. Suite à cette première émission de fin octobre, qui avait vu, disons, le commentaire effectué, quelque peu en direct, d'un article que j'avais publié sur... le titre, c'était « Washington à la conquête du 9-3 ». C'était, en quelque sorte, comment les services spéciaux américains tentent de créer une cinquième colonne dans les cités françaises. Bon, enfin, c'est pas le sujet ce soir de cette émission. Bon, ce soir, c'est un autre animateur, John Lott, qui, avec les deux autres articles, va constituer le sujet principal. Mais à la suite de cette émission, comme ça, l'idée est venue de pouvoir commenter des articles en direct. Et bon, c'est comme j'ai été, je peux dire, en quelque sorte sollicité par Cartoris en vue de un petit peu faire le relais de cette émission radio. J'ai pensé que John Lotz pourrait être un intervenant utile parce que c'est justement un rédacteur d'articles, disons, bien à lui, quoi, avec sa verve qui lui est propre. J'ai connu, peut-être je dois dire quelques mots sur John Lotz. Bon, John Lotz, bon, bien sûr, c'est un logo, enfin, c'est un pseudo très british, sinon c'est un français bontain. J'ai connu John Lotz sur le même blog que j'ai croisé Cartoris à l'origine, c'est Agoravox. Je pense qu'il doit y avoir quelques auditeurs d'Agoravox en ce moment à l'antenne, enfin qui nous écoutent à la radio et que je salue au passage. J'ai remarqué John Lotz parce que c'est quelqu'un qui, disons, n'a pas, enfin, disons, pour la radio, ça serait, on passe la langue dans sa poche, mais enfin, là, je ne sais pas comment on peut dire pour sa plume, mais enfin, il avait toujours une plume bien acérée. Et puis des propos, enfin, disons, un style bien à lui, très vindicatif, enfin, qui ne laissait pas indifférent. Il y avait toujours énormément de réactions suite aux articles de John Lotz. On peut dire qu'à chaque fois, enfin, il avait le talent, le don de susciter la discussion, on peut dire, de susciter un buzz. Je pense que faut pas que je discute trop longtemps. Je pense qu'ensuite, je peux peut-être...
Hieronymus, c'est oui. Un pseudonyme, hein. On va garder la confidentialité, oui, du pseudonyme. John, oui, Lloyd vous écoute, il est sur une autre ligne. Bonsoir, John Lloyd.
Oui, bonsoir.
Là, vous entendez Hieronymus qui vient de dire quelques mots vous concernant ?
Tout à fait, j'ai entendu.
Bonsoir à vous, Jean-Luc, bonsoir. Vous salue aussi.
Bonsoir, bien sûr, aux deux que
bonsoir,
je ne connais
monsieur
pas.
Machance.
Bonsoir,
bonsoir
à vous.
Bonsoir, monsieur Carton. Bonsoir, les auditeurs également.
Alors, Hieronymus et John Lloyd, vous êtes tous les deux, si vous voulez discuter, dialoguer, on peut vous laisser quelques minutes dialoguer l'un avec l'autre.
Oh, il n'y a pas de souci, non, on se connaît assez bien, donc... Non, on peut directement passer à l'étape suivante.
Étape suivante. Hieronymus, je vous en prie, vous pouvez, oui, saluer John.
Oui, bonsoir, Hieronymus. Oui, je pense qu'il n'est pas surpris que je l'écoute en ce moment. On peut dire qu'on est assez fréquemment en contact, puisque, bon, c'est, disons, parce qu'on se connaît que... J'ai pensé que John Lotz pourrait animer une émission intéressante ce soir. Je pense que on peut peut-être effectivement, comme le dit John, passer directement à l'étape suivante. On peut, on avait prévu d'aborder, parce que c'est sans doute un sujet où les gens ont des choses à dire, qui peut le plus intéresser un maximum d'auditeurs, d'évoquer la franc-maçonnerie. Alors, l'article écrit par John Lotz sur la franc-maçonnerie, bon, est directement consultable sur le site Conspiration et Dossiers Secrets, on vient d'en parler. Bon, sinon, également, ça a été publié sur un autre site qui s'intitule Mécanopolis. Mais je pense que le mieux, c'est peut-être... de souhaiter bonne chance à cette émission et de laisser John Lotz peut-être introduire brièvement son article, ou faire un résumé utile.
Alors, le titre de l'article, je l'ai sous les yeux, c'est « L'imminente destruction de la France sous l'empire franco-maçon matérialiste ». C'est bien ça, John Lotz?
Franc-maçon, pas franco-maçon.
Franc-maçon, oui, je dis franco-maçon.
Lapsus
qui n'est pas révélateur, forcément.
Oui, tout à fait, oui.
Cet article a été repris par plusieurs sites, hein. Je l'ai vérifié, effectivement.
Oui, il y a pas mal de sites qui l'ont repris. Rien que sur Mécanopolis, il a fait un peu plus de 40 000 visites. Donc c'est un article qui a eu pas mal de succès. Alors, relativement long, trop long au goût de certains. Donc il a été réduit. Vous trouverez la version complète sur Mécanopolis, la version abrégée sur le site donc Conspiration et Dossiers Secrets. Et sur ce dernier, il y a un fil donc sur le forum spécialement consacré au débat sur le sujet. Donc les auditeurs qui écoutent ce soir, qui veulent au besoin développer ou qui veulent des renseignements complémentaires, des références, etc. Donc ils savent où aller, il y a vraiment un fil dédié au sujet où ils seront renseignés de manière très précise.
Et puis les auditeurs pourront également appeler dans... Ils sont dans une heure, hein, le temps que nous développions les deux sujets, enfin même trois sujets, puisqu'il y a les prophéties de Malachie ou de Malachie, c'est selon, les prophéties de Jean de Jérusalem, et puis cet article retentissant sur la franc-maçonnerie.
Tout à fait.
Hieronymus, si vous avez quelques questions, priorité à vous, et puis Jean-Luc interviendra tout de suite après. Si vous avez déjà quelques questions à poser à John Lloyd, je vous en prie.
Oui, j'ai lu son article avec grand intérêt. Bon, enfin, avec en même temps un certain amusement parce que j'ai retrouvé le style percutant de John Lloyd qui mettait toujours une joyeuse animation. Enfin, John Lloyd n'a pas sa langue dans sa poche, comme je disais. Bon. John, je vais pas le vouvoyer. Hein, on a l'habitude de se tutoyer, mais
oui, tutoie-moi.
Je pense que bon, sur la franc-maçonnerie, c'est une sorte de sujet fleuve. Moi, je pense que toute chose est double, c'est-à-dire que bon, la franc-maçonnerie, bon, on peut la critiquer par bien des aspects, mais elle a quand même joué un rôle non négligeable dans l'histoire de la France, enfin, disons plutôt de la République française, parce que bon, elle a marqué son influence surtout sur la Troisième République. Mais ce qui m'a un petit peu gêné dans l'article, c'est que j'ai pas vu trop la distinction entre bon les différentes obédiences, parce que bon comme le syndicalisme français, la franc-maçonnerie française a la particularité d'être éclatée. C'est un petit peu une exception française. Bon, avec pour les citer les principaux, bon, le Grand Orient, la Grande Loge Nationale, la Grande Loge de France, enfin, je ne sais pas si je dis ça de façon tout à fait exacte. Bon, mais
Jean-Luc voudrait déjà intervenir.
Non, simplement dire bon, que tout ça est tout à fait exact. Alors simplement, la Grande Loge Nationale de France, la Grande Loge Nationale de France, une obédience au niveau nombre, c'est la deuxième obédience. Le Grand Orient de France, je dis bien au niveau nombre, c'est la première obédience. Et puis la Grande Loge de la rue Puteaux, qui est la troisième obédience. Et puis il y a d'autres obédiences plus petites. Et tout ça est explosé, c'est parfaitement exact, surtout en France. Voilà, c'est tout. Je vous relaisse la parole.
John, vous avez entendu la réponse?
Oui, tout à fait. Juste un petit complément donc au sujet des obédiences. Après quoi, je souhaiterais avoir, 10 minutes, un quart d'heure, si c'est possible, histoire d'introduire le débat et d'exposer un peu dans les lignes la façon dont je vois le problème. Mais pour revenir aux obédiences, oui, en gros, c'est une notoriété publique, j'ai repris en partie un article de Capital, tout au moins dans l'introduction, où l'effectif est éclaté effectivement en trois. On a effectivement 120 000. Bon, c'est le chiffre qui est donné par le magazine. Il y en a probablement plus, Enfin, on est parti sur 120 000. L'intérêt de cet article, c'est qu'il a sectorisé les obédiences par profession. Alors, c'est relativement intéressant comme approche, ce qui prouve déjà qu'il y a véritablement des des connivences sur des secteurs précis professionnellement parlant. Alors on a par exemple au Grand Orient 50 000 francs-maçons sectorisés donc en hôpitaux, enseignants et syndicats, 40 000 à la JLNF. Bon, en gros, c'est ce qui touche les CGPME, donc tous les organismes de financement d'entreprises, la magistrature, et donc 30 000 à la GLDF. Là, on a les médecins, avocats, pharmaciens et journalistes. Voilà un petit peu pour répondre à la question.
Oui, tout à fait exact.
Jean-Luc.
Non, c'est exact. En gros, c'est exact. Simplement, pour mettre un peu d'humour d'entrée, le plus difficile, c'est les chiffres exacts. Parce que les chiffres exacts, que ça soit au Grand Orient, à la Grande Loge Nationale de France, à la Grande Loge de France, ce sont toujours des chiffres très cachés, finalement. Malheureusement cachés par chacune des obédiences, avec beaucoup de jalousie et beaucoup d'ostracisme. Voilà, c'est tout. Je dis rien d'autre. Donc, pourquoi pas ces chiffres? Ils sont corrects, en gros.
Oui, 120 000, bon, comme je disais au début, je pense qu'ils sont un peu sous-évalués, mon avis, en avançant le chiffre de 150 000, on serait plus proche de la vérité. Effectivement, c'est très difficile de savoir.
C'est un peu comme les 950 voitures qui auraient été brûlées pendant la nuit du Saint-Sylvestre. On n'en est pas loin, oui.
Absolument, oui.
Alors, en préparant l'émission, je vais vous laisser la parole, bien entendu. J'ai retrouvé un article publié dans le Point.fr, publié le 12 mars 2009, Les francs-maçons, ils sont partout, jusqu'au cœur de l'État. C'est en tout cas la conclusion de notre consoeur et collaboratrice au Point, Sophie Coignard. Je pense que vous avez lu le livre de Sophie Coignard.
Absolument. C'est une référence d'ailleurs, oui. Il y a deux références en la matière dont je conseille fortement la lecture. C'est effectivement le livre de Sophie Coignard, Un État dans l'État, le contre-pouvoir maçonnique, qui est une étude relativement complexe. Et un livre un peu plus ancien qui est très bien fait, qui est donc il y a deux auteurs, Ghislaine Ottenheimer et Renaud Lecadre, Les Frères Invisibles, très très bien fait aussi. Bon, ce sont deux livres qui sont consacrés essentiellement aux scandales qui sont liés à la franc-maçonnerie depuis les années 80-90. Donc il y a pas véritablement de texte qui concerne la franc-maçonnerie en elle-même, c'est-à-dire ses buts et ses objectifs. Par contre, pour les lecteurs qui sont intéressés pour avoir le détail de toutes les affaires, et il y en a énormément, je conseille fortement cette lecture parce que ça leur donne une idée extrêmement précise. Bon, je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, bien que je considère que c'est un sujet qui soit finalement relativement secondaire. Mais bon, il est bien d'en parler un petit peu pour véritablement que les auditeurs aient une idée précise de l'étendue des dégâts.
Oui. Je sais pas si c'est le moment de faire quelques commentaires sur ce que je viens d'entendre, mais c'est exactement comme si on disait que pour se rendre compte de... Allez, je rentre dans la polémique. Que pour se rendre compte exactement de l'état de la France, il fallait lire uniquement France Dimanche. Alors je crois qu'on n'aurait pas, excusez-moi d'avoir prononcé le mot de France Dimanche, mais disons uniquement Galla. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que pour se rendre compte de l'état réel de la franc-maçonnerie, il ne faille lire que les deux livres que l'on vient de citer. Les deux livres que l'on vient de citer sont écrits par des gens qui avaient l'intention de prouver, ils ont peut-être raison, ça c'est une autre question, de prouver qu'en effet il y avait un état dans l'état. Mais c'est dommage, il y a une phrase là qui vient d'échapper à celui que j'écoutais, je ne sais pas si c'est Géronimus ou l'autre, C'est cette phrase qui dit on parle assez peu du sens de la franc-maçonnerie. C'est un peu dommage. Alors, il y a certains livres qui parlent des scandales de la franc-maçonnerie. Ce sont les livres qui se vendent le mieux. Et puis, il y a d'autres livres qui parlent du sens de la franc-maçonnerie, de pourquoi la franc-maçonnerie, etc. Je tiens à dire ça parce qu'on ne peut pas juger de quelque chose en ne lisant que les livres qui cherchent à être des best-sellers. Voilà, j'ai fini mon commentaire un peu pointu. Et excusez-moi de cette intervention.
Non, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, c'est un sujet tout à fait secondaire. Bon, il convient quand même de rappeler que pour ces deux livres qui sont restés sans réponse, donc comme vous le disiez si justement tout à l'heure, on est dans un état de relative liberté d'expression. En tout cas, bon, ces deux livres-là n'ont pas eu de retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contre-livre, entre guillemets. Il n'y a pas eu de procès non plus, donc on peut supposer que tout ce qu'il y a dedans est exact. Mais effectivement, bon, l'histoire de scandales, bon, ils sont relativement connus, c'est effectivement pas véritablement intéressant de s'étendre là-dessus, parce que je suis d'accord avec vous, le plus intéressant c'est qu'est-ce que la franc-maçonnerie, quels sont ses objectifs, y parvient-elle ou non. Donc je pense qu'effectivement c'est ce type de débat où il convient d'entrer. Donc moi, si vous le voulez bien, je peux...
Pardonnez-moi, John Lloyd.
Je vous en prie.
Au départ, la franc-maçonnerie est partie d'une idée généreuse, il me semble. Il me semble.
Écoutez, moi, quand je vois comme définition de la franc-maçonnerie, définition qu'on voit un peu sur un peu tous les sites profanes, franc-maçonnerie, idéal humain, bienfait... œuvre pour les bienfaits de l'humanité, etc., etc. Bon, c'est un petit peu douteux dans la mesure où effectivement, rien que pour parler des scandales, des affaires, on a quand même une avalanche, pour ne pas dire un tsunami d'affaires dont les racines sont strictement maçonniques. On peut d'ailleurs même aller au-delà. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des affaires relativement graves qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont passées avec le franquisme, qui se sont passées avec Mussolini, pour remonter relativement loin comme ça d'ailleurs. Donc, moi si vous voulez une composante humanitaire, je veux bien, mais dans les faits c'est pas du tout démontré. Donc, je pense qu'il convient déjà à mon avis, de faire un point sur l'objectif réel de la franc-maçonnerie, parce que s'arrêter véritablement à l'aspect humanitaire, c'est pas du tout représentatif des faits.
Mais John, vous ne pourrez pas dire le contraire. La corruption est partout. Elle est dans tous les mouvements, qu'ils soient politiques, philosophiques, religieux. La corruption, elle finit toujours par nous atteindre.
Écoutez,
dire qu'il y a des maçons corrompus, certainement qu'il y en a. C'est une évidence même, non ?
Non. Dans le livre que j'ai cité, donc le livre écrit par Ghislain Ottenheimer et Renaud Lecadre, il cite en détail toute la liste, encore elle n'est pas exhaustive, des corruptions depuis les années 80. Les auteurs, si vous voulez, en sont à dire est-ce qu'il y a eu des affaires où les francs-maçons n'apparaissent pas ? Je veux dire, on en est là quand même. Donc, vous avez un discours qui est un petit peu semblable à celui de M. Alain Bauer dans son dernier livre, Le dictionnaire amoureux des francs-maçons.
C'est un navet. C'est un navet, ce livre.
En gros, bon, oui, il y a eu quelques affaires, et puis, bon, après tout, il y en a partout, c'est pas très grave. Non, c'est pas quelques affaires qu'il y a eu.
Non,
il y en a eu des centaines.
Ce n'est pas ce que je disais, je disais que la corruption, elle atteint tous les milieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on ne peut pas dire quand même Il me semble, hein, vous me corrigez, Jean-Luc aussi, tous les maçons, tous les francs-maçons ne sont pas des corrompus.
Non, c'est pas ça qui est dit quand même. Oui. C'est pas ça qu'il dit, l'interlocuteur. C'est pas ça qu'il dit quand même. Il veut dire que il a parlé tout à l'heure de tsunami, des scandales. Là où il a un peu raison, c'est qu'on a l'impression, en ne se basant que sur ces livres-là, mais je souligne quand même que le premier des deux livres cités, Cognard, celui du Point, c'est quand même quelqu'un qui crache dans la soupe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle vient des milieux maçonniques. Donc c'est ennuyeux. Alors attendez.
Elle est mieux informée que les autres.
Elle est plus journaliste que les autres. Vous voyez, la polémique, ça existe, hein, on peut répondre. Je ne sais pas si, simplement une idée, si on voulait présenter absolument l'Église, comme par hasard l'Église catholique, on pourrait écrire un livre aussi sévère que ces deux livres-là sur l'Église catholique en disant que c'est tous des pourris, depuis l'Inquisition, bien avant d'ailleurs, en reprenant tous les crimes du Moyen-Âge, en reprenant tous les salauds contemporains, en reprenant l'Église sous Vichy, on arriverait à un livre où, ma foi, on dirait pas du tout que l'Église se base sur l'Évangile ou sur le message évangélique d'amour au départ. C'est pour ça qu'il faut se méfier.
Oui, mais quand vous disiez tout à l'heure, voilà, il faut être précis, vous aviez parfaitement raison. Là, on parle véritablement de la plupart de toutes les grosses affaires qu'il y a eu depuis les années 80.
Vous savez, c'est difficile. Ce mot « la plupart » me paraît être un mot très caution. Le mot « la plupart », c'est très dangereux de dire. La plupart.
Écoutez, je vais vous en citer.
Parce qu'il y en a beaucoup de scandales.
Ouais, c'est ce que j'allais demander, quelques affaires. Oui.
L'Arc, avec Jacques Rosemary, donc l'Arc que tout le monde connaît, c'est la publicité à la télé à l'époque, donner des sous pour le cancer, etc., etc. Bon, c'est une affaire franc-maçonne, l'UEMM, l'Union...
Mais qu'est-ce que vous appelez une affaire franc-maçonne ?
Qu'est-ce qu'une affaire franc-maçonne, oui, John Lewis ?
Alors, une affaire franc-maçonne, c'est une affaire où les francs-maçons ont été impliqués. Alors, je continue. L'UIMM, l'AMNEF, ELF, URBA, toutes les affaires de la Côte d'Azur, le crash de Draguignan, les écoutes de la ceinturie, les affaires de la clinique de Marseille, le scandale GMF, l'affaire Schuller-Maréchal, l'affaire de la caisse des dépôts, l'ouverture d'informations judiciaires contre Xavier Tibéri. Alors là, c'est même une affaire où on est parti chercher le procureur en hélicoptère en Himalaya. Bon, toutes les affaires d'Afrique, l'Angola Gate par exemple, les HLM de Paris, le Carrefour du Développement, Péchinet. Alors, la plus grosse du siècle, faut pas l'oublier, le Crédit Lyonnais. Alors, le Crédit Lyonnais, il faut quand même dire que c'est quasiment 200 milliards de francs qui ont été facturés aux contribuables. Ils avaient racheté d'ailleurs une société hollywoodienne, la Metro-Goldwyn-Mayer, 12 milliards de francs. Et les deux chargés d'affaires de cette société-là étaient deux membres de la loge P2, qui était d'ailleurs soi-disant dissoute dans les années 80. Il y a eu donc l'affaire de la Banque internationale de Monaco, où était impliqué URBA d'ailleurs, qui était toute la pompe afrique du Parti socialiste. Là aussi, c'est les francs-maçons qui ont, c'est les contribuables pardon qui ont payé. Donc vous voyez que bon, alors j'en donne que quelques-unes. Il y en a vraiment comme ça, toute une liste. Et je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est de notoriété publique. Alors effectivement, on peut dire que c'est des gens qui ont craché dans la soupe. Sophie Cognard, bon, certainement, était une ancienne maçonne, mais je veux dire, à quelque part raison de plus. Elle devait très bien connaître l'intérieur. Mais bon, encore une fois, j'aurais bien, si c'est possible, recadrer le débat. C'est pas l'essentiel, parce que moi, je souhaitais quand même parler de l'objectif maçon, ce qui me paraît être un point beaucoup plus important. Il y a eu des affaires, je tenais à souligner. Par contre, je me porte à faux. Enfin, je suis totalement contre les défenses qui consistent à dire oui, il y a eu quelques petites affaires. Bon, ok. Bon, je veux dire, ça a été très loin quand même. Hein. Il y a même eu, si on va par là, toutes les affaires de terrorisme de la loge P2 en Italie, qui ont duré depuis les années 60. La loge P2, faut quand même savoir que c'est une émanation du Grand Orient. Il y a tout un historique, si vous voulez, qu'on peut mettre en place, et il faut absolument pas minimiser les malversations, pour ne pas dire plus, parce que bon, l'OGP2 ça a été quand même très loin. L'OGP2 était jusqu'au terrorisme quand même, l'assassinat d'Aldo Moro, etc. Bon, c'est pas des petites affaires, hein, c'est même pas du détournement financier. Donc encore une fois, ma position est de dire cet aspect-là du débat reste secondaire, parce que bon, c'est des affaires avérées, on les connaît. Moi, je souhaiterais, si c'est possible, parler plus de la consistance de l'objectif maçonnique. Enfin, si vous êtes d'accord, bien sûr.
Bien sûr que nous sommes d'accord, Jean-Luc est là pour pouvoir vous répondre. Parce que bon, le titre de cet article, l'imminente destruction de la France sous l'empire franc-maçon matérialiste.
C'est, disons, un beau titre de Galla et de France Dimanche.
John, défendez-vous, hein.
Ben oui, je ne dis pas grand-chose, hein, pour l'instant.
Quand je dis défendez-vous, argumentez contre argumenter l'un avec
moi,
l'autre.
Si vous voulez, est-ce qu'il m'est permis de...
Mais tout vous est permis.
D'introduire ma façon de penser, ça me prendra une dizaine de minutes.
Tout vous est permis, à condition, comme je vous l'ai dit il y a quelques heures, de ne pas avoir la langue de bois. Et vous
tout
savez
fait,
que,
je
tiens à la liberté d'expression. D'accord.
Oui.
D'accord. Mais je me suis quand même interrogé, si vous me permettez, puis je fermerai la parenthèse. Sophie Cagnard, une ancienne franc-maçonne, lorsqu'elle a déballé tout ce qu'elle a déballé, je me suis demandé, mais peut-être n'a-t-elle pas eu les encouragements nécessaires, peut-être briguait-elle un autre poste, peut-être voulait-elle d'autres responsabilités qu'elle s'est vue refuser.
Alors,
c'est souvent comme ça que ça arrive.
Je suis d'accord avec vous. Il y a la question de la motivation, mais la question de la motivation n'enlève rien aux faits. Les faits sont là, ils ont été exposés, ils n'ont pas été démentis. Donc, je dirais, quelle que soit la motivation, il y a que les faits qui comptent.
Oui. Alors, s'il y a que les faits qui comptent, il n'y a pas que les faits négatifs qui comptent. On pourrait refaire une histoire de la franc-maçonnerie, y compris contemporaine, en reprenant tous les grands francs-maçons contemporains actuels et en montrant quels sont ceux qui ont fait des choses positives et n'ont pas conspiré pour la destruction de la France. Vous reprenez, il faut quand même pas charrier, on peut aussi écrire un livre sur les bienfaits de la franc-maçonnerie. Ce livre commencerait par Lafayette, à la limite, hein, c'est de l'humour, mais c'est du sérieux ce que je dis. Après tout, on peut presque dire que les États-Unis d'Amérique sont nés sur des idées franc-maçonnes avec des personnages qui étaient francs-maçons. Le premier président des États-Unis l'était. On peut reprendre aussi, même y compris très récemment, tout ce qu'il y a eu de positif. Voilà, je dis rien d'autre. Il ne s'agit pas de faire une balance. Hein. Là, vous avez raison de dire que c'est la charge est lourde et c'est un tsunami de choses négatives. Là-dessus, on est d'accord. Mais n'oublions pas non plus, pas d'image d'Épinal. Les images d'Épinal, c'est assez dangereux, finalement. C'est très bon pour les articles de presse. C'est très bon pour un bon audimat, mais ce n'est quand même pas de l'histoire. Il faut aussi voir, moi je suis en train de travailler actuellement sur un livre important de 1500 pages sur l'histoire de la franc-maçonnerie et sur la franc-maçonnerie, je le dis puisque le contrat est signé, que j'y travaille déjà depuis un an, et vous avez raison, tout ce que vous avez dit est juste, mais je considère aussi, je m'aperçois aussi en écrivant ce livre, en faisant écrire ce livre dans la collection bouquins de chez Lafon, pour tout dire, C'est un scoop, puisque c'est la première fois que je le dis quelque part. Et je m'aperçois aussi qu'on peut écrire des livres qui seraient tout aussi mauvais, qui ne verraient que les aspects positifs en reprenant tous les grands personnages qui ont apporté et la paix et la justice, etc. On peut écrire ça de n'importe quelle église, de n'importe quelle... C'est ça la difficulté. C'est pour ça que vous avez raison de vouloir revenir plutôt au sens profond de la franc-maçonnerie. Autrement, on n'en finit jamais. On n'en finit jamais, on va parler du général Lafayette, on va parler du bon côté de la Constitution américaine, même s'il y a des mauvais côtés. On va parler de qui a créé la démocratie, on pourrait en dire longuement là-dessus, etc., etc. Voilà. Je ne veux dire que ça. Certes, il y a le livre de Cognard et le livre des Invisibles, les Frères Invisibles, mais il y a à côté aussi tout ce qui a été fait. Vous prenez un dictionnaire des grands personnages de la franc-maçonnerie, vous verrez qu'il n'y a pas que des bandits.
Voilà. Nous allons en parler, absolument, oui. Alors,
Je vais vous laisser continuer, mais j'aimerais prendre congé de Hieronymus qui est toujours en ligne et qui n'intervient pas.
Non, mais moi, pour moi, ça ne me pose pas du tout de problème. Au contraire, si vous permettez, justement, par rapport à cet aspect historique.
Je vous disais ça, Hieronymus, simplement pour libérer une ligne. Une ligne téléphonique.
Oui.
Hein, et n'hésitez pas à intervenir, je pense que vous allez suivre l'émission jusqu'à 6 heures.
Oui. Non, mais par rapport à ce que disait Jean-Luc Maxence, bon, il y a quand même, bon, il faut bien dire qu'il y a une ombre qui plane négativement sur la France du fait de la maçonnerie à l'origine. Bon, c'est son rôle dans la Révolution française qui a été quand même assez ambivalent. Bon, avec la présence du cousin du roi, Philippe Égalité, bon, qui a tristement fini comme l'on sait, mais qui a eu un rôle de conspirateur éminent contre Louis XVI, bon, et que toujours cette attitude, parce que je crois qu'il était grand maître du Grand Orient à l'époque, enfin je crois que cette attitude de la franc-maçonnerie qui a été de vraiment fractionner la France, bon, en faisant perdre au roi son rôle sacré de protecteur de la nation, ça a ensuite pesé très lourd sur l'histoire de France. Bon, enfin voilà, c'était tout ce que je voulais dire.
Oui, bon, enfin, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie a donné la Révolution française? Je crois qu'on est au niveau historique très loin de cela, hein. On n'est plus à l'époque de Baruel et on n'est plus à l'époque de où l'extrême droite essayait de nous faire croire que les francs-maçons étaient responsables de la chute de la royauté. Je crois que ça, c'est de l'histoire.
Il y avait énormément de députés qui étaient francs-maçons.
Bon, et alors, est-ce que la Révolution française est un bien ou un mal? On serait encore là à 6 heures du matin pour en parler. Je veux dire...
Oui,
ça c'est quand même un argument, on dirait Jean-Marie Le Pen parlant de la franc-maçonnerie.
Je pense qu'on voit toujours la Révolution positivement. C'est vrai que la Révolution a eu des effets positifs de modernisation du pays, mais dans la fonction
collective... Et puis du droit de l'homme quand même.
Oui, mais tout régime d'instinct, presque par réflexe conditionné, se fait un devoir de discréditer, de diffamer le régime précédent. De l'abominable tyrannie de ces rois de France, en fait, ça n'avait rien du tout d'abominable. Je pense que la terreur sous la Convention, c'était quelque chose de bien plus redoutable.
Ça a été plus court. Ça a été plus court que l'histoire des rois,
oui,
l'histoire de l'Inquisition, que les rois qui ont massacré. Enfin bon, là vraiment, c'est deux vues de l'histoire différentes, bon, qui existent et qui peuvent exister. Mais on ne peut pas faire porter à la franc-maçonnerie ni Joseph de Maistre, ni la Révolution française à l'opposé. C'est ça que je veux dire. Je crois qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant, qui est important, quand vous parlez de l'ombre, etc., c'est le mot fantasme. Un jour, j'écrirai un article qui s'appellera « Le grand fantasme de la franc-maçonnerie ».
Oui, non, mais moi je ne suis pas tout blanc ou tout noir, enfin, concernant la franc-maçonnerie. Bon, je pense que bon, toute chose est ambivalente. Bon, ce souvenir, enfin cette trace douloureuse de la césure, enfin du cataclysme, du traumatisme profond qu'a été la Révolution française, bon, dont on se glorifie toujours, mais force est de constater que avant la Révolution, la France était la première puissance européenne. Après la Révolution, puis l'épopée napoléonienne qui s'en est suivie jusqu'à sa chute finale, La France est devenue un pays de seconde zone. Bon, enfin, bon, on pourrait demander.
Et alors,
c'est
et alors.
C'est pas le sujet de ce soir, mais.
Non, pas du tout. Moi, je suis pas nationaliste du tout. Je suis patriote, non. Mais pas du tout nationaliste. Je me fous que la France soit pas devenue, soit pas restée le premier pays du monde, même au niveau à cause des rois. Je m'en fous. Maintenant, je suis dans un monde.
Moi, je m'en fous.
Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est le progrès de l'humanité dans son ensemble, etc. Bon. C'est pas absolument de savoir si on était les premiers sous Louis XVI et si on n'était plus les premiers sous Napoléon Ier.
Oui, mais il y a une dépopulation très grave de toute à la suite de la Révolution. Bon, il y a eu énormément de choses qu'ont endommagé la France de façon durable, dont elle s'est péniblement remise au cours du 19e siècle. Et puis, bon, il y a eu cette habitude d'instabilité constitutionnelle qui date de la Révolution française. Enfin, le 19e siècle, la France a le record du monde de constitution. Je ne sais pas si elle a 12 constitutions en tout. Enfin, il n'y a aucun pays au monde qui est aussi instable. Bon, alors là-dedans, bon, le rôle de la franc-maçonnerie, bon, il a sans doute ensuite cherché à stabiliser les choses, enfin stabiliser les choses à sa façon, bon, en créant ensuite un clivage entre une France traditionnelle catholique, bon, puis une France, disons, qui se voulait plutôt gauchiste, moderniste. Bon, mais en générant des crises successives, quoi, bon, qu'on a vu lors de au début du XXe siècle, bon, avec la séparation de l'Église et l'État. Bon, je dis pas que cette loi est une mauvaise chose, mais enfin, c'était le résultat d'une crise profonde. Bon, il y a eu toujours des crises. Bon, il y a toujours un combat entre une frange idéaliste et puis une frange réaliste dans la classe politique française. La franc-maçonnerie me semblerait plutôt être du côté de la frange frange idéaliste. Bon, c'est pour ça que j'ai quelques réserves en ce qui concerne son action. Enfin, voilà, c'était ce que je souhaitais juste par rapport à cet aspect historique pour ajouter. Bon, mais enfin, je reste en ligne, hein, je reste à l'écoute.
D'accord, et puis vous nous rappelez quand vous voulez, hein, Hieronymus.
D'accord.
D'accord. Et à tout à l'heure, merci.
À bientôt, au revoir.
À bientôt. Alors, John Lloyd.
Oui, alors, bon.
La parole est à vous maintenant.
Est-ce que la révolution de côté. Parce que,
John Lloyd, oui, on va revenir.
Parce que moi, je souhaiterais vraiment parler du fond.
Vous allez pouvoir le faire. Allô? Oui, vous allez pouvoir le faire. Je vous demanderai simplement, pour le confort de nos oreilles, vous savez, par l'intermédiaire du téléphone et les ondes hertziennes, le moins de petit bruit est décuplé en puissance. Donc, si vous pouviez garder votre combiné téléphonique sans trop le bouger, c'est une question
d'accord,
de confort technique, d'accord? Donc, nous vous laissons, Jean-Luc vous écoute, développer le sujet que vous vouliez développer tranquillement, et puis prenez votre temps, 5 minutes, 10 minutes, et Jean-Luc prend des notes et vous questionnera après, d'accord?
D'accord, très bien.
Allez, à tout de suite.
Oui. Bon, moi, si vous voulez, j'interviens ici. Je suis pas du tout maçon. Je pense que vous l'avez bien compris, quoique contrairement à mes propos, je suis pas du tout anti-maçon. Je vais m'en expliquer. Mais j'interviens donc comme observateur extérieur. Alors bon, on dit toujours, oui, c'est un observateur extérieur. Il sait pas comment ça fonctionne, etc., etc. Enfin bon, aujourd'hui, entre le fonctionnement interne et l'aspect historique, il y a tellement d'ouvrages qui paraissent que bon, on arrive à peu près à tout savoir, même sans être maçon. On connaît même un certain nombre de rituels. Bon, peut-être pas tous. Mais le fait d'être observateur extérieur me laisse, si vous voulez, l'avantage par rapport à vous d'être foncièrement objectif. Alors, moi, je ne suis pas du tout anti-maçon, que ça soit clair, parce que il faut bien différencier deux choses. Moi, je pense qu'actuellement, la franc-maçonnerie souffre d'une espèce de crise identitaire. D'ailleurs, c'est la crise que traverse le Grand Orient actuellement, qui est évoquée par les maçons eux-mêmes, le traduit relativement bien, et qu'elle est dans une phase véritablement dans une sorte de d'hémorragie de points de repère. Un peu comme un hélicoptère qui aurait perdu ses, c'est pas le latéral. La franc-maçonnerie est... Alors, j'ai trouvé une définition dans Wikipédia. Pour une fois, je trouve qu'ils ont donné une très bonne définition qui représente bien ce qu'elle est actuellement. Ils disent « La franc-maçonnerie est un ensemble de phénomènes sociaux. » Alors ça, je trouve, personnellement, ça me paraît difficile de trouver mieux comme définition. Un ensemble de phénomènes sociaux, c'est-à-dire des petits Facebook à droite à gauche qui sont ensemble et qui s'auto-émulent. Alors, moi, mon propos, si vous voulez, c'est d'essayer de séparer, de tracer une ligne, une dichotomie, on va dire, pour prendre un langage plus mathématique, de façon à mettre d'un côté la franc-maçonnerie qui a totalement perdu ses repères originels, que moi je qualifierais de poubelle, classement vertical, et la véritable franc-maçonnerie qui, elle, conserve toujours ses repères originels. Donc, si vous voulez, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que l'eau est extrêmement sale qu'il faut jeter l'ensemble. Bon, ça, c'est un petit peu ma démarche. Donc, je commencerai peut-être par votre livre, parce que j'ai un peu parcouru. Bon, c'est le seul, j'ai pas eu la chance de lire vos autres livres, mais j'ai lu celui de Guénon, que je trouve très bien fait d'ailleurs du reste. Très bien fait pour la raison que vous avez relativement bien résumé la pensée de Guénon, que j'y retrouve en quelques lignes. Donc Guénon qui dit que les deux seules doctrines qui comportent encore quelques notions d'initiation traditionnelle sont la doctrine chrétienne et la doctrine maçonnique. Ce en quoi je suis parfaitement d'accord. Bon, il manque à mon avis là-dedans les doctrines alchimiques et hermétiques. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère à Guénon, je préfère son frère ennemi Julius Evola, parce que lui par contre traite le sujet dans son intégralité. Guénon qui dit également donc que la plus grosse partie de la tradition maçonne a été perdue du passage de l'opératif au spéculatif. Donc ça, c'est très bien dit, votre livre le stipule de manière claire. Et je pense, à mon avis, que c'est de là qu'il faut partir, parce que la franc-maçonnerie, si vous voulez, est, je dirais actuellement, moi j'appelle ça la petite dernière. Dans toutes les doctrines initiatiques occidentales, alors je vais juste parler des occidentales, je ne vais pas parler des doctrines orientales ou moyen-orientales, comme par exemple le soufisme, où bizarrement Guénon a échoué, alors qu'il a défendu toute sa vie la doctrine initiatique chrétienne. Je ne vais pas parler des doctrines non plus orientales de type yoga tantrique ou autre. En restant strictement dans les doctrines initiatiques occidentales, donc là, initiation chrétienne, initiation juive, la franc-maçonnerie bien sûr et le compagnonnage, l'alchimie, l'hermétisme, la franc-maçonnerie est quand même là-dedans la petite dernière, historiquement parlant, je parle bien sûr. Alors évidemment, il y a beaucoup d'historiens qui essayent de la faire remonter plus loin, on essaye de trouver des textes fondateurs à droite, à gauche, pour mettre en place une continuité, comme les statues de Shaw, par exemple. Mais bon, force est de constater que cette continuité, elle n'existe pas. Il y a véritablement une discontinuité nette et précise entre l'opératif et le spéculatif, qui fait que les origines de la franc-maçonnerie, historique j'entends, ne remonte qu'au 18e, ou si on pousse un peu au 17e siècle. Alors si on faisait une comparaison avec l'historique chronologique des religions, la franc-maçonnerie correspondrait à l'islam qui est donc la dernière religion mise en place. La franc-maçonnerie n'a actuellement que 2 ou 3 siècles. Alors on comprend évidemment que il y a beaucoup d'historiens maçons, comme Dachaise par exemple, qui essayent de reconstituer une continuité entre les débuts historiques et les origines légendaires. Alors, toute l'histoire de la franc-maçonnerie actuellement consiste, on a l'impression, à essayer de construire sa propre légitimité parmi ses sœurs aînées, donc, qui sont les doctrines initiatiques précédentes dont j'ai parlé. Le problème, si vous voulez, de la franc-maçonnerie, c'est que, alors, ça c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est un franc-maçon réputé qui était Oswald Wirth, franc-maçon du début 20e, qui disait que le symbolisme maçon était très limité, ce qui est tout à fait vrai. Bon, le compas, l'équerre, les instruments de construction, les deux colonnes, l'œil flamboyant, mais encore, bon, il y a un débat là-dessus. Mais si vous voulez, globalement, c'est à peu près tout. Tout le reste, ce sont des symboles empruntés. Alors, emprunté, c'est le terme qui est employé par Oswald Wirth. Moi, je serais un peu plus méchant que ça. Je dirais des symboles pillés. Je vais donner un simple exemple. L'épée, par exemple. L'épée, donc, qu'on voit sur tout maçon digne de ce nom. L'épée n'a rien à faire. Bon, je ne veux pas me faire que des amis ce soir, mais l'épée n'a rien à faire dans du symbolisme maçon. La maçonnerie, c'est l'art de bâtir. Pourquoi est-ce qu'on donne une épée à quelqu'un qui est dans la construction ? Un chevalier, par exemple, dans la chevalerie initiatique, on ne va pas lui donner une truelle. L'épée, ça serait plutôt un symbole alchimique, un symbole donc de métallurge. Et il y a toute une série, si vous voulez, de symboles qui ont été empruntés par la maçonnerie à d'autres doctrines initiatiques ou non. Alors on a emprunté au Rose-Croix, on a emprunté à la théosophie allemande, donc notamment Jacob Bohème, on a emprunté à la théurgie, à la cabale, à l'alchimie, à la chevalerie chrétienne, au christianisme ésotérique, à l'égyptologie, je pense notamment à Cagliostro, aux doctrines jacobites. La franc-maçonnerie a véritablement tout emprunté. Donc on a l'impression que c'est une espèce de soupe avec différents ingrédients, et le fait effectivement qu'on retrouve énormément d'obédience avec énormément de variantes s'explique très facilement par ce phénomène, parce que finalement suivant la recette, tu reprendras bien un petit peu de Rose-Croix, non j'en ai assez, par contre je veux bien un petit peu d'égyptologie. En mettant une recette légèrement différente, on retrouve effectivement une obédience un petit peu différente. Donc tout ça pour dire que je rejoins donc le début de mon introduction, tout ça pour dire qu'il y a, à mon sens, une absence totale d'identité.
Alors,
je termine encore une petite minute, et puis
Jean-Luc pourra vous répondre, oui.
Voilà, tout le temps pour répondre.
Oui.
Alors, je ne jette pas pour autant la franc-maçonnerie, puisque l'aspect initiatique est véritablement légitime. Quand on prend un auteur que j'aime bien, par exemple, comme Jean-Pierre Schnetzer, il explique relativement bien les choses. Donc, la construction du temple, c'est bien sûr la construction de soi-même. L'état humain, notre état humain, est un état intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas fini. Alors, est-ce que savoir qu'on est au quart du chemin, à la moitié du chemin, ou trois quarts du chemin, peu importe, mais l'état humain n'est pas fini. Et donc, la franc-maçonnerie, de même que d'autres doctrines initiatiques, se propose de finaliser l'état humain, de le mener à sa perfection. Alors, Schnetzer explique relativement bien le phénomène. Il dit, en franc-maçonnerie, on a l'équivalent des petits mystères, comme on trouvait par exemple dans les doctrines de d'Eleusis, les mystères d'Eleusis. On a donc les petits mystères qui consistent à réintégrer l'état primordial avant la chute. On a d'ailleurs exactement la même chose en alchimie, qui est la réduction du métal à son état initial. On a les grands mystères, qui consistent à amener effectivement l'état humain à son état final. Donc tout ça, c'est présent dans la franc-maçonnerie. C'est parfaitement légitime. Donc si vous voulez, moi ce que je mets comme limite, et c'est un petit peu ma position, c'est de dire tant qu'on reste effectivement dans une logique de perfectibilité de l'état humain, la franc-maçonnerie est une doctrine parfaitement valable, parfaitement légitime. Mais dès l'instant où on s'en éloigne, et notamment dès l'instant où on rentre dans ce que j'appelle la franc-maçonnerie politique, on a totalement perdu le fil. Déjà que le fil était relativement bien usé du passage de l'opératif au spéculatif. Dans la franc-maçonnerie politique, on est complètement dans les choux. C'est pour ça que lorsqu'on parle de franc-maçonnerie, moi je différencie véritablement d'un côté la franc-maçonnerie politique, qui pour moi est totalement poubelle, et la véritable franc-maçonnerie initiatique. Voilà un petit peu, si vous voulez, ma façon d'appréhender le problème.
Jean-Luc ?
Oui, ça va être difficile de répondre en 5 minutes, puis je vais essayer. C'est intéressant, parce que
John a dit, et il le répète là maintenant en direct, prenez chacun votre temps.
D'accord, mais je vais quand même essayer d'être... pas prendre trop de temps, parce qu'après ça devient trop comme une hydre, hein, pour employer, ou comme une pieuvre, on va employer un mot un peu marrant, comme une pieuvre avec plein de tentacules, et finalement on ne sait plus trop à quel sens se vouer et à quel symbole se vouer.
Tu as pris énormément de notes quand John Lloyd parlait des différents symboles.
Oui, non, les symboles, c'est habile la façon dont il a parlé, et c'est assez juste, mais c'est également une soupe, c'est-à-dire... Je crois que on ne peut se rendre compte que la franc-maçonnerie est une méthode, parce que la franc-maçonnerie est avant tout une méthode de partager à plusieurs la pensée de chacun, et une méthode adogmatique. Voilà ce qu'elle est. Et les symboles, c'est quelque chose qui peuple le monde entier. Il l'a bien dit d'ailleurs, je suis d'accord avec lui, les symboles viennent de partout. Mais la franc-maçonnerie ne récupère pas les symboles, elle essaye de les faire parler. De les faire parler juste. Quand on dit que l'épée est un symbole que les francs-maçons auraient volé à je ne sais où, à la chevalerie, au Moyen-Âge, il ne faut pas voir les choses comme ça. La franc-maçonnerie, c'est avant tout un certain nombre de rites, différents souvent les uns des autres, c'est vrai, certains puisant leur source du côté de l'Égypte, d'autres puisant la source ailleurs, du côté du christianisme, du côté de l'ésotérisme chrétien, etc. Je ne vais pas faire toute la liste, parce que je répéterai ce qu'il a dit, mais je vais plutôt aller vers l'idée que la franc-maçonnerie est une méthode d'amélioration de son intériorité, c'est une quête initiatique, c'est une voie initiatique, une quête de soi-même, une construction du temple intérieur, et non pas extérieur nécessairement. Et alors, pour essayer de clarifier tout ce qui a été dit, qui était tout de même, à mon avis, à mon humble avis, quelque chose d'un peu caricatural, il ne faut pas voir la franc-maçonnerie de l'extérieur. Parce que finalement, le secret maçonnique n'existe pas, il existe au fond de chacun des maçons et de chacune des personnes qui prennent cette voie initiatique-là. Là où je suis d'accord avec mon interlocuteur, c'est qu'il n'y a pas de secret maintenant en apparence sur la forme. Vous trouvez des milliers de livres, il a cité des très bons auteurs, on peut en citer d'autres. Bon, en fait, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est la démarche. C'est le chemin, c'est la voie initiatique que propose la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, la franc-maçonnerie n'est pas une secte, la franc-maçonnerie est une voie initiatique parmi d'autres, c'est une méthode. Voilà ce que je répondrai à ce que je viens d'entendre. C'est, si vous voulez, une quête du Graal, mais du Graal de soi-même, si on veut absolument employer un symbole du côté du Moyen-Âge. Ou c'est un passage dans l'Athanor, dans son Athanor propre, si on veut absolument... employer des images d'alchimie.
Référence à l'alchimie.
Oui, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est vrai que la franc-maçonnerie peut sembler avoir cueilli un peu partout des outils symboliques, mais ce n'est pas l'outil symbolique qui est important en franc-maçonnerie. C'est ce que signifie le symbole de plus que le langage courant. Quelles sont les résonances de ces outils symboliques? Qu'est-ce que le symbole nous donne comme langage? Quel est le langage du symbole? Autrement, la franc-maçonnerie s'écroulerait. Parce que vous l'avez fort bien dit, avec tous les handicaps qu'elle a au plan politique, tout le méli-mélo qu'elle peut sembler être vue de l'extérieur, il est évident qu'il n'en resterait rien si ça n'était pas une véritable voie initiatique. Que Guénon le veuille ou pas, elle existe encore. Et pas simplement en France. C'est tout. Et je ne suis pas un défenseur absolu, je ne suis pas grand maître d'aucune désobédience, que le grand architecte m'en préserve. Je ne suis rien de tout cela. Je suis simplement quelqu'un qui étudie depuis 15 ans ou 20 ans l'histoire de la maçonnerie, les origines, de l'intérieur, mais pas que de l'intérieur. C'est tout. Vraiment, je crois que la franc-maçonnerie est un énorme fantasme populaire. C'est-à-dire, on y met tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, c'est une idée, une méthode de partage, une recherche de clarté de soi-même, d'édification de son temple intérieur pour mieux fonctionner après vers l'extérieur. Alors, quant à la franc-maçonnerie politique, c'est presque un langage courant. Hein. Quand dans un groupe, on veut dire du mal de gens qui travaillent entre eux et qui sont un peu douteux, on dit « Ah, ça c'est des histoires de franc-maçonnerie ». Vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est pas l'extérieur. On passe à l'extérieur correctement lorsque l'intérieur est clair. Or, il faut des années et des années et des années pour qu'un franc-maçon sincère, qui n'est pas dans les magouilles politiques, puisse oser après sortir du temple et agir de façon correcte, honnête et j'allais dire reliée par rapport à ce qu'il a appris à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Pour moi, la franc-maçonnerie, c'est pas un caravansérail de symboles qui veulent rien dire. Les symboles peuplent le monde si on sait les lire. Ça, c'est. On n'a pas besoin des francs-maçons pour cela. C'est toutes les vieilles, toutes les initiations possibles, toutes les origines, toutes les traditions possibles le redisent de manière différente. Avec en plus cette phrase du Tao qui explique la franc-maçonnerie, quand vous êtes sur la voie, vous êtes déjà la voie. Quand vous y êtes vraiment. La voie veille. Voilà. C'est un peu ça que je répondrai à tout ce qui a été dit, qui n'est pas faux, mais qui, j'aurais envie, alors ça va vous faire sourire, j'aurais envie de dire, il manque quand même, entrer dans le temple, on verra ce qui s'y passe, pour vous. Ce sera peut-être cela, le secret.
Mais il n'empêche que le temple dont tu parles est pourri de corruption.
C'est pas le temple, c'est l'homme qui est pourri de corruption.
D'accord.
C'est pas le temple. Vous savez, quand vous rentrez dans un temple protestant, c'est pourri de. Bon, quand vous entrez dans l'église de Benoît XVI, c'est plein de pourriture. Il y a les pédophiles. Là, depuis un an, on pourrait faire un livre qu'on n'appellerait pas les frères invisibles, mais les catholiques visibles. Ce serait pas beau non plus. Et ainsi de suite. Il faut d'abord parler du dedans et après on peut peut-être améliorer le dehors.
C'est l'idée même de la franc-maçonnerie qui a été corrompue.
Qui a été mal appliqué. Ouais. Donc, c'est presque le mot corrompu peut fonctionner. Mais attendez, toutes les obédiences ne sont pas les mêmes. Par exemple, le Grand Orient est très pratiquement matérialiste. Il faudrait peaufiner ça. Hein. La Grande Loge nationale de France, qui est devenue très affairiste au départ, était très, très, très presque intégriste au sein de la franc-maçonnerie, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut. Il faut quand même nuancer tout ça. Alors, c'est bien de citer Roger Dachet, mais Roger Dachet passe sa vie, c'est là où c'est un historien sérieux, à nuancer, justement, aussi bien au plan des origines et qu'au plan des influences des différentes obédiences. Il y a quand même un monde, entre une tenue au Grand Orient où le delta lumineux, si vous voulez, le soleil, il y a le soleil, la lune, le delta lumineux, tout le monde peut lire ça en achetant des livres au Monoprix. C'est quand même très différent quand le delta lumineux devient la République. Quand on voit par exemple la statue de la République qui devient le delta lumineux dans certaines tenues, il y a des différences. Il y a autant de différences entre les obédiences qu'il y a de différences entre les orthodoxes, les protestants et les catholiques. Voilà ce que j'aurais envie de dire. Donc finalement, ce qui est important, c'est la grande ligne, c'est le sens général. Qu'est-ce qui rejoint, quel est le but général des orthodoxes, des protestants, des catholiques? C'est tout de même d'essayer de suivre les enseignements de l'Évangile, de suivre ce que peut représenter le personnage de Jésus-Christ, etc. Bon, dans la franc-maçonnerie, c'est un peu la même chose. C'est s'engager dans une voie initiatique avec des symboles différents, quelquefois des méthodes différentes, des rites différents. Bon, mais on ne peut pas supprimer le rite, comme on ne peut pas supprimer une liturgie dans une église catholique ou protestante ou orthodoxe. Voilà ce que j'aurais envie de dire. La diversité n'est pas toujours la mort d'une idée, loin de là. Au contraire, c'est quelquefois une certaine liberté et le contraire d'une secte. Parce que dans une secte, vous avez des dogmes. Hein ? Qu'est-ce qui fait qu'une secte est dangereuse ? Souvent, on dit même quelquefois que l'Église catholique est une secte réussie, c'est que dans une secte, il y a des dogmes que l'on ne peut pas, les nier. On est obligé d'y adhérer. En maçonnerie, la maçonnerie est pratiquement toujours adogmatique. On n'apprend pas par cœur ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut croire. On est engagé dans quelque chose qui est une voie initiatique. Voilà, je répondrai simplement à ça. Je reconnais que je suis un idéaliste de la franc-maçonnerie, ça je le reconnais.
D'accord.
Alors, comment... vous avez parlé de secte, justement. Bon, vous dites que la franc-maçonnerie n'est pas une secte, très bien. À la définition près, je vais vous raconter une petite anecdote quand même qui va me mener à une question. Dans les années 2000, suite à toutes ces affaires, il y avait des affaires de corruption en cascade, des centaines d'affaires sur la Côte d'Azur, rien que les affaires, ce qu'on appelait le réseau médecin, c'était des dizaines d'affaires à lui tout seul. Donc à l'époque c'était le gouvernement de gauche qui avait envoyé un certain Éric de Montgolfier, donc tombeur de Bernard Tapie, soi-disant pour faire un petit peu de ménage là-bas. Bon, il est arrivé, il s'est très vite aperçu que bon, c'était un mur, c'était hermétique, c'est le cas de le dire. Impossible de mettre la main sur le moindre dossier. D'ailleurs, la plupart des dossiers avaient disparu. Impossible d'avoir des informations de par le fameux pacte d'entraide que tout maçon doit prononcer. Il avait appelé à l'époque la ministre à la rescousse, qui était Guigou, je crois. Et il lui avait fait part de la situation en disant attendez, c'est pas possible, j'arrive à avoir aucune info, il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Et Guigou lui avait répondu bon, ben, vous faites un très bon travail, c'est bien, continuez, mais l'atteinte à la vie privée, on n'a pas le droit. Donc, rideau. Bon, vous parliez de sectes tout à l'heure. Bon, les sectes, il y a un observatoire en France, et c'est très bien. Il ne faut pas qu'on tombe dans
émission, hein. C'est très bien, c'est très rapide.
Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire, c'est très bien, mais...
C'est une secte dans la secte.
Ces gens-là sont systématiquement fichés jusqu'à la garde. On connaît absolument tout, souvent même les informations sont rendues publiques. Et bizarrement, avec la franc-maçonnerie, c'est interdit, atteinte à la vie privée. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait... deux poids, deux mesures.
Écoutez, là, je vous réponds rapidement. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous dites qu'il y a deux poids, deux mesures. Et puis, depuis le début de l'émission, vous me citez deux livres où on cite en cascade, comme vous dites, tous les scandales de la franc-maçonnerie. On ne peut pas dire qu'on se tait sur les scandales de la franc-maçonnerie. On ne peut vraiment pas dire ça. C'est assez amusant de dire qu'on les cache. Je crois que c'est les secrets de Polichinelle. Tout ce que vous avez dit, qui est d'ailleurs juste, de mon Montgolfier en passant par Bernard Tapie, encore qu'il n'a pas été abattu par Montgolfier, c'est presque le contraire à l'heure actuelle. Bon, tout ça est vrai, donc on ne peut pas dire qu'on cache absolument, qu'il y a un rideau. Non, vous savez, les escrocs de tout temps n'ont pas eu besoin d'être francs-maçons pour être escrocs. Attention, hein, c'est très clair ça. C'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas des experts en escroquerie. Les escroqueries, on les retrouve encore une fois, je retombe sur l'idée de Jean-Claude Carton au début de l'émission, on retrouve partout des menteurs, des hypocrites, des voleurs, des magouilleurs, des conspirateurs. Ils sont partout. Ils sont partout. Et même dans tout ce que vous avez cité, c'est grosso modo une caricature de dire qu'il n'y avait que des francs-maçons. Dès qu'il y a un scandale, s'il y a un franc-maçon dedans, on dit c'est un franc-maçon. Mais on dit pas, tiens, il y a un catholique là. Il y a un catholique. Il y en avait beaucoup. Là, il y a un protestant. Là, il y a un athée. Il y a un Sartre qui a fait tel truc. Attention. Par contre, quand on repère un franc-maçon dans quelque chose qui est un scandale absolument indéniable, croyez-moi, l'étiquette, elle est faite tout de suite. Faisons attention aux discriminations, y compris maçonniques. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça va peut-être vous étonner ce que je vais dire, à l'heure actuelle, on n'est pas loin d'un danger de discrimination réel par rapport à la maçonnerie. Alors, ça rappelle des mauvais temps. N'oublions pas que les francs-maçons ont eu un sort vraiment peu enviable sous le gouvernement de Vichy et pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Il ne faut pas l'oublier, c'est plutôt bon pour eux. Ça prouve qu'ils n'étaient pas du mauvais côté nécessairement. Hein, faisons très attention à cela. Tout ce qui est malhonnête devient maçonnique. C'est un peu de la caricature.
Non, ce que vous dites est totalement faux. Il y a eu énormément de francs-maçons qui ont participé au gouvernement de Vichy.
Oui. À la résistance aussi, on n'en sort plus. Vous avez raison de dire ça, mais il y a énormément de francs-maçons qui ont été résistants. Il y a également des francs-maçons au moment de l'arrivée de l'État français par le maréchal Pétain, au moment où l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Si vous prenez la liste, vous verrez qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui ont voté contre. Et ils sont peu nombreux, les députés qui ont voté contre. Je ne peux pas vous les réciter, ce serait trop long, mais il y en a eu beaucoup. Je crois qu'on ne peut pas non plus faire des francs-maçons des vichysois définitifs ou faire des francs-maçons des gaullistes définitifs. Il y a beaucoup de francs-maçons gaullistes. Et ainsi de suite. Méfions-nous.
Alors, Jean-Luc, dans son article, John Lloyd écrit « Mais les gamelles maçonnes ne datent pas d'hier. On peut remonter loin, très loin, à commencer par Vichy, pour commencer au plus près. C'est un dossier spécial de Science et Avenir qui le révèle. Quand les Russes récupérèrent en Allemagne, en 1945, les archives maçonniques et les dossiers noirs de l'occupation que les Allemands avaient saisis en France et rapatriés chez eux, ils distillèrent la restitution pendant des décennies. Les premiers documents furent envoyés au général de Gaulle en 1966 sous forme de 193 cartons. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Le reste s'est allé sur les décennies suivantes. C'est bien ce que vous avez écrit, John Lloyd.
Oui, tout à fait, mais bon...
Attention, parce que l'antimaçonnisme sous Vichy a quand même entraîné un certain nombre de francs-maçons qui se sont retrouvés même en camp et qui en sont morts. N'oubliez pas non plus... Alors là, c'est plutôt le catholicisme que je mets en accusation, que les anti-maçonniques primaires se sont retrouvés du côté de Vichy. Excusez-moi, cette époque-là, je la connais vraiment très bien, de très très pointue. Énormément de d'anti-maçonniques primaires. Je nomme pas les noms, mais vous les connaissez si vous faites un peu d'histoire. Que ceux notamment qui publiaient cette revue qui s'appelait l'anti-maçonnisme d'ailleurs, c'est vraiment des gens qui ont dénoncé la maçonnerie. Le maréchal Pétain était anti-maçonnique comme pas possible. C'est lui qui a interdit la maçonnerie. C'est lui qui a pratiquement mis les maçons du côté des juifs. Vous voyez ce que ça voulait dire pour le maréchal. C'était quand même très grave. Et n'oubliez pas que c'est le général de Gaulle qui a redonné la possibilité à la maçonnerie d'exister en France. Attention, il ne faut pas, sous prétexte de sensationnel, transformer les choses. Je ne crois pas qu'on peut dire que le gouvernement de Vichy est arrivé à cause des maçons. Ça, c'est vraiment un contresens total, historiquement parlant.
Non, ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement de Vichy, et notamment sous Laval, a employé énormément de maçons à tous les postes clés, au gouvernement, ou dans les presses, dans les messageries. Les messageries à l'époque avaient été remplacées, c'était Hachette qui faisait des messageries, ça avait été remplacé donc par des messageries allemandes. C'était un maçon qui les dirigeait. Toutes les revues pro-allemandes, les revues nazies étaient dirigées par des maçons. D'ailleurs, Abetz lui-même faisait partie de la maçonnerie. Donc, il est tout à fait faux de dire qu'il y a eu des édits anti-maçons. C'est vrai qu'il y en a eu.
Ah, mais comment qu'il y en a eu appliqué.
Bien sûr, mais ils n'ont jamais été appliqués. La seule raison
ils n'ont pas été appliqués. Vous connaissez le film
anti-masque ? Attendez, j'en viens. Écoutez,
alors là, c'est des erreurs historiques. Je ne suis pas d'accord.
La seule raison des édits anti-maçons d'époque, c'était justement pour arrêter les maçons qui étaient trop près des obédiences juives. C'était la seule raison. Tous les autres n'étaient pas du tout inquiétés. Ils étaient même promus à des postes relativement élevés. Et dès la libération, on les a tous retrouvés dans des postes clés au gouvernement. Il a pas du tout fallu attendre De Gaulle. Dès l'année 45-46, on les a retrouvés à des postes clés. C'est relativement facile de retrouver les noms d'ailleurs. Hein. Donc, il est tout à fait faux de dire que le gouvernement de Vichy a été anti-maçon. Bien sûr qu'il y a eu des mesures qui ont été prises contre eux, mais dans les faits, Abetz lui-même...
La dissolution de la maçonnerie. Le maréchal Pétain a fait en sorte que la maçonnerie soit dissoute. Quand il a installé rue Puteaux, pour être précis, lorsqu'il a installé là tous ces spires anti-maçonniques, on peut vraiment pas... Là, écoutez, il faudrait relire l'histoire. C'est dommage que Roger Dachès ne soit pas là, mais là, il faudrait faire une relecture précise de la maçonnerie par rapport à Vichy. Là, je crois qu'on est quand même un petit peu dans le retournement de l'histoire. On peut toujours relire l'histoire de manière comme on tourne un tricot à l'envers. Mais tout de même, on peut pas dire que Vichy était d'inspiration maçonnique. C'est vraiment l'inverse.
Ah, écoutez, moi je...
Vous voyez, on n'est pas d'accord, donc il y a du fantasme quelque part.
Tant mieux, mais au moins écoutez-vous et dialoguez.